Bonjour Justin Weiss.
Bonjour.
Avant de parler de ce forum de Paris qui n'aura lieu qu'en novembre prochain, mais que vous préparez activement depuis déjà un certain temps, j'aimerais vous demander, puisque vous êtes un fin connaisseur des États-Unis, vous travaillez au Quai d'Orsay, ça n'est pas à ce titre-là que vous vous exprimez aujourd'hui, mais enfin vous connaissez très bien les États-Unis. Comment vous analysez ce qui vient de se passer à l'occasion de la rencontre entre le président américain et son homologue russe, ces déclarations de Donald Trump sur les ingérences russes qui n'auraient pas eu lieu ou qui ne seraient pas forcément imputable à la Russie, et puis ce rétro-pédalage extrêmement embarrassé hier sur un prétendu lapsus.
Si vous aviez été élu avec une majorité très très fine, et en fait une minorité dans le vote populaire, si avait pesé constamment sur votre élection le soupçon d'une aide extérieure, est-ce que vous confirmeriez que cette aide extérieure existe? Et c'est là le dilemme dans lequel se trouve Trump, c'est-à-dire que si il accepte la conclusion des agences de renseignement, c'est-à-dire qu'il y a eu ingérence russe dans la campagne, alors ça veut dire que son élection est entachée soupçons, voire de fraude. Donc il ne peut pas accepter cette conclusion. Et donc c'est ça qu'il a fait quand il était aux côtés de Vladimir Poutine. Simplement, d'un autre côté, quand il revient à Washington, il trouve la colère du Parti démocrate, bien sûr, mais aussi du Parti républicain, parce que, ce faisant, il nie ce qu'affirme en bloc de façon unie toutes les agences de renseignement américaines, et donc il s'attaque au fond il fait montre d'antipatriotisme, d'où le rétro-pédalage suivant les affirmations initiales.
C'est quand même inédit et difficile de voir le président des États-Unis dire blanc et dire noir le lendemain de cette manière.
Ah bah oui, là j'ai pas d'explication, tout connaisseur des États-Unis que je sois, on est dans une autre dimension avec Trump. On a aussi d'autres paramètres, c'est-à-dire qu'on voit bien depuis le début que les critères qui s'appliquent aux autres hommes politiques et femmes politiques américains ne s'appliquent pas à Trump et on sait qu'il dit un certain nombre de choses fausses tous les jours, et pourtant il n'y a pas exactement les mêmes règles de sanctions de l'opinion publique.
En désavouant de cette manière les services de renseignement américains, et puis il y a quelques semaines en acceptant que des petits immigrés mexicains soient séparés de leurs parents, les images avaient frappé le monde entier. Est-ce que Donald Trump ne s'est pas attaqué ou ne malmène pas deux piliers très importants de l'Amérique? Vous l'avez évoqué pour l'un, le patriotisme, et la famille pour l'autre.
Oui, toute la question est de savoir s'il y a un seuil. Or, pour l'instant, le Parti républicain, c'est-à-dire à la fois la base, les électeurs eux-mêmes, et d'autre part, ceux qui comptent vraiment, c'est-à-dire les sénateurs républicains, ne semblent pas vouloir en tirer de conséquences.
Mais ça pourrait en avoir en novembre prochain pour les élections de mi-mandat.
Oui, nous verrons.
Alors, vous êtes l'organisateur, le grand organisateur du Forum de Paris qui aura lieu entre le 11 et le 13 novembre prochain. Lorsqu'il a annoncé cette initiative, c'était je crois en janvier dernier, le président Macron a notamment dit que ce serait le rendez-vous de tous ceux qui veulent construire le multilatéralisme d'aujourd'hui. Est-ce que justement c'est une façon de répondre à l'Amérique unilatéraliste de Donald Trump ?
Le Forum de Paris sur la paix n'a pas été conçu comme ça, il n'est pas dirigé vers tel ou tel. En fait, il part d'un constat assez simple. Les tensions dans le système international augmentent, la coopération tend à diminuer. Il est de plus en plus difficile de voir les normes et les règles de la vie internationale respectées. On le voit au Conseil de sécurité, dans le droit humanitaire. Et puis, il y a des tas d'autres dérèglements. Internet est le lieu des propagandistes et des hackers. On perd la guerre contre le réchauffement climatique. La justice internationale est contestée. Bref, on a un système international qui se dérègle. Or, d'un autre point de vue, on a des défis de plus en plus grands. Je parlais du réchauffement climatique, les migrations, évidemment, la gouvernance de l'Internet, etc. Et pour ces défis-là, il n'y a pas d'autre solution que de coopérer, parce qu'un État tout seul ne peut pas faire grand-chose face à ça. Et donc, on a cette tension entre ces deux choses-là, et il faut, sans doute, le moment est venu, un siècle après l'armistice de 1918, qui a ouvert une paix qui a été assez précaire, la paix des années 20 et 30 a duré qu'une vingtaine d'années, et s'est brisé sur ces problèmes de gouvernance globale, la société des nations qui échoue, la fermeture des pays les uns après les autres après la crise de 29 et finalement la guerre. Et donc l'idée du Forum de Paris sur la paix, c'est d'essayer ensemble justement de défendre cette coopération et ce multilatéralisme.
Et l'idée, c'est de ne pas être une sorte de conférence traditionnelle avec beaucoup de débats, beaucoup de vastes réflexions, mais de parvenir à du concret. C'est-à-dire, vous voulez, si je disais les choses familièrement, pas trop de jus de crâne, mais de vrais résultats.
Exactement. On a lancé un appel. On aura entre 100 et 150 projets, ouais. Solutions, initiatives, idées de réforme, etc., qui seront présentés physiquement à la Grande Halle de la Villette, donc du 11 au 13 novembre, en présence de chefs d'État, d'organisations internationales, de tous les acteurs qui comptent, les collectivités locales, les ONG, les fondations, bref, la société civile, parce qu'on sait que pour nombre de ces problèmes, c'est pas simplement qu'un État ne peut pas faire tout seul, c'est que les États ne peuvent pas faire tout seul, donc ils seront tous là, et autour de projets qui seront présentés, y compris physiquement, dans un espace d'exposition, et qui tiennent à ces thèmes qu'on a retenus, paix et sécurité, ouais. Environnement, développement, nouvelles technologies et économie inclusive.
Alors justement, parmi ces cinq thèmes que vous venez de citer, est-ce qu'il y en a qui suscitent plus d'intérêt que les autres ?
Oui, alors il y a les thèmes traditionnels et qui sont brûlants, notamment pour certains continents, les migrations par exemple pour l'Europe, avec des projets à la fois de textes, de normes, le Migration Compact ou le Mobility Project, etc. Enfin des projets d'organisation, mais aussi les nouveaux thèmes, alors tout ce qui tient au numérique, parce que évidemment c'est un domaine nouveau, donc ouais. Il n'y a pas encore beaucoup d'organisation, beaucoup de normes, beaucoup de gouvernance. Alors c'est la gouvernance des données. Alors nous en Europe, on a progressé avec le RGPD, le règlement de protection des données, mais aussi la gouvernance de l'intelligence artificielle, qui est de plus en plus un sujet. On a beaucoup de projets, par exemple celui de créer une sorte de panel intergouvernemental sur l'intelligence artificielle, un GIEC, vous savez, comme on fait pour le climat. Mmh. Vous savez, ce panel qui donne régulièrement l'état de l'art sur le climat. L'idée serait de faire la même chose pour l'intelligence artificielle, pour comme première étape vers une forme de gouvernance, et qui nous dirait chaque année à la fois les promesses et les périls de l'intelligence artificielle.
Dans son appel à projet, le président Macron avait en effet sollicité les chefs d'État, les ONG, les chefs d'entreprise, les intellectuels, et même a-t-il dit d'ailleurs les simples citoyens. Pour l'instant, vous parlez de 100 à 150 projets. D'où viennent-ils en majorité ?
Alors, pour l'instant, ils viennent surtout du Nord, de l'Europe, des États-Unis. On a, pour l'instant, une proportion insuffisante de projets du Sud. Or, toute l'idée l'inspiration, en fait, du Forum de Paris sur la paix vient largement de la COP21. Et COP21, les leçons qu'on a tirées de la réussite de la COP21, c'est d'une part l'importance de la gouvernance, ce que nous on appelle dans notre jargon la gouvernance hybride, c'est-à-dire le fait d'associer la société civile et d'autres. Et deuxièmement, l'importance du Sud. C'est-à-dire on ne peut plus décider des questions de la planète sans le Sud. Et donc on fait un appel très marqué en direction du Sud. On a déjà tout de même une dizaine de projets qu'on retient qui sont de très grande qualité, qui viennent du Sud, du Brésil, d'Afrique et d'ailleurs. Mais il nous en faut davantage.
Très rapidement, Justin Weiss, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique est prévu à la même période. Est-ce que la France se soucie de ne pas trop perturber cet événement-là en monopolisant les personnalités et l'attention ?
Oh, oui, alors je crois que d'une part l'objet est très différent, la date est tout de même très différente, c'est deux semaines avant, et les personnalités auxquelles il s'adresse sont différentes. Comme nous, le Forum de Paris sur la paix sera le 11 novembre, on aura les chefs d'État et de gouvernement et les chefs d'organisation internationale présents pour les commémorations du 11 novembre. Donc probablement une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement du monde entier, d'Amérique latine, d'Asie et d'Océanie, etc. Et donc on fait très attention à ne pas avoir d'effet de concurrence pour pouvoir avoir deux événements importants pour l'avenir de la planète.
Merci Justin Weiss, bonne journée.
Merci à vous.